Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça?
Un bruit.
Bon, c'est en plein dans le sujet, je crois. Hein. Je crois. Franchement, au passage, c'est rigolo d'entendre le style de l'époque. Le fait que Schaeffer lui-même, homme de radio, puisqu'on parlait de la dramatique, présente ça comme une pièce de théâtre, pratiquement, puisque c'est lui qui écrit toutes les personnes, y compris les répliques, les objections. Etc. Et même dans certains passages de l'émission, quand il voit qu'il commence à être un peu chiant, il fait dire à la fille, mais là, attention, vous allez un peu trop loin, ça commence à déraper, à devenir un peu trop compliqué. Voilà, c'était la radio de l'époque, mais moi, ce que je trouve intéressant dans toute la série, je vous recommande de l'écouter si c'est pas trop pénible, c'est le sens des questions qui se posent, qui restent très actuelles et qui sont vachement importantes, quoi. Voilà. Alors, il faut faire fi des apparences. Hein. Mais à l'époque, on écoutait, vous voyez, comme ça va vite, hein, ça va très très vite. C'est une écoute très, quand même assez littéraire, et on écoutait ça en speedant beaucoup, quoi. Je vois mal qu'on fasse de la radio encore aujourd'hui comme ça, c'est que notre écoute a beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est plutôt France Culture ou France Musique comme style. Voilà, et donc on écrivait à l'époque les émissions de toutes pièces comme ça. Bon, ben voilà une des questions sur le rapport du bruit au son, c'est-à-dire après l'histoire de la musique occidentale où on voit qu'on en arrive à une apogée, et puis peut-être à plus trop savoir où on va, lui pose comme essentiel non pas forcément les nouvelles technologies, etc., mais de nouveaux comportements d'écoute, surtout ce qu'on a négligé d'une part. Et voilà, moi, où je disais qu'il y a peut-être progrès tout à l'heure, c'est-à-dire que on quitte une civilisation qui est celle de l'écrit, beaucoup, il en a parlé lui-même, puisqu'il a fait des bouquins sur la communication. Hein. Je parle aussi de mon travail au conservatoire, où j'ai surtout affaire à une culture qui est fondée sur la représentation, l'écrit, etc. Et que d'un seul coup, arriver à une civilisation où il y a la mémoire, où il n'y a plus de représentation, on est directement confronté à l'être humain, à sa perception, c'est une situation nouvelle et culturellement qui n'est toujours pas entrée dans l'éducation d'une certaine façon. Qui a beaucoup de mal à y entrer.
C'est peut-être un problème qui arrive aussi dès qu'il y a un support qui est autre que le papier. Peut-être qu'il y a le même problème aussi avec la vidéo.
Oui, pour tous les arts de support, vous voulez dire, au sens large.
C'est une question que je pose comme ça.
Oui. C'est sûr que c'est un rapport au support direct.
Oui, oui.
Parce qu'il y a un mode d'écriture, c'est juste qu'il est pas...
Oui, il y a beaucoup de choses qui vont avec le partage des tâches. Enfin, moi, je vois pour la musique plus traditionnelle, je crache pas dessus parce que j'en écoute. Je vous ai dit, j'ai été formé à ça tout le temps et j'aime beaucoup ça. Je parle des pratiques et des incidences que ça peut avoir sur la communication et la pédagogie qui, à mon avis, ne tient pas compte des apports et des réflexions telles qu'on vient de les écouter. C'est vrai qu'il y a un conflit entre des comportements qui sont dus au partage des tâches, entre le compositeur qui écrit, la partition qui dit bien qu'elle partitionne les choses en plusieurs parties, de l'instrumentiste qui écoute, qui lui a une tâche privilégiée, c'est d'être capable de manière très performante de jouer ce qu'a écrit, du moment où on se retrouve, etc., etc. Il y a toute une culture qui va avec, qui est très très différente dans les comportements de celle qui a où on a à écouter, à tout prendre en charge, où on a soi-même les moyens. On joue tous les rôles à la fois, pratiquement. Hein. Voilà. Alors en tout cas, moi, durant 35 ans d'enseignement, puisque vous me demandez de parler de mon expérience, j'ai eu beaucoup de mal à faire admettre cette idée qu'il y avait d'autres manières de penser la musique, pas qu'en termes esthétiques, hein, pas comme une opposition en disant ben, ça c'est les bruits, pour revenir au sujet, c'est la musique de casserole, c'est la musique de sauvage, c'est des termes qui désignent le bruit d'une certaine façon.
Pour le coup, en guise de première pièce à écouter, ce serait pas mal d'écouter celle où tu insères des fragments de musique extra-européenne.
Oui. Alors, là, on passe à un autre sujet. Je peux dire quelques mots de présentation rapidement. C'est là où moi je fais la distinction entre ce que j'appelais tout à l'heure ce qui nous est commun et ce qui est singulier. Je vais revenir là à mon expérience de compositeur. Chaque musicien a une façon un peu particulière d'entrer en musique, puisqu'on n'a plus de partition, plus de langage commun. Chacun, en fait, se débrouille comme il peut. Hein. Je citerai, si on a le temps d'écouter, Alain Savouré en particulier, qui lui, j'ai questionné beaucoup les compositeurs pour savoir s'il y avait des recettes, s'il y avait des moyens d'écrire de la musique, etc. Si on n'était pas définitivement confronté à nous-mêmes dans notre solitude de création. Et j'ai eu plusieurs échos en disant, mais moi je mets un son à gauche, moi je mets un son à droite, je mets un son au centre, et puis finalement, chaque fois qu'il y en a un qui arrive, ça a des incidences sur le comportement général. Et finalement, voilà pour lui. J'ai questionné Béatrice Ferreira, dont on écoutera peut-être une pièce tout à l'heure, qui elle a travaillé beaucoup sur le solfège de Schaeffer, et qui travaille avec je passe du grave à l'aigu, etc., sur les qualités du son très directement. Et puis notre amie qui, elle, s'entoure d'un bain de philosophie chaque fois qu'elle compose, qui fait de la musique très méditative. Et finalement, j'ai remarqué que le point commun, c'est bien sûr les qualités du son, puisqu'on compose avec ça, mais qu'il restait toujours des traces de la façon particulière d'entrer en musique. Savouré fait de la musique comportementale. Christine, qui s'entoure de philosophie, fait de la musique très méditative, très, très intérieure, etc. Alors pour ce qui me concerne... Moi, je dis ça pas comme une recette. J'ai l'habitude de considérer les sons comme des êtres. Pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, où on donne au bruit un statut d'objet et on reste objet, un statut de sujet et je me donne un statut de sujet du même coup et je peux commencer à avoir des relations. Moi, depuis que je suis tout petit, mais c'est pas une loi générale ni une solution pour tout le monde. Ma façon d'entrer en musique, puisque c'est ça que vous me demandez, c'est de considérer les sons comme des êtres. C'est-à-dire que quand je compose, je prends du temps pour vivre avec eux. J'ai fait des logiciels pour essayer de les rapprocher, pour voir comment ils se parlent les uns aux autres, etc. Et au bout d'un instant, c'est un petit peu comme Raymond Devos, je ne sais plus qui est le chien et qui est le maître, c'est-à-dire je ne sais plus qui ils sont et qui est la personne humaine. Enfin, quand il dit, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, finalement, on ne sait plus qui est le chien, qui est, voilà. Et moi, j'ai besoin de passer beaucoup de temps à imaginer une espèce de comme une vie un peu idéaliste et utopique, sociale, où des sons seraient des êtres, au sens très très large du terme, peut-être au-delà des êtres humains, et d'essayer de les faire vivre dans une société un peu idéaliste. Voilà, mon entrée en musique à moi, c'est ça. Je me prends pas la tête comme ça tout le temps, hein. Soyez rassurés. J'essaierai de vous dire tout à l'heure comment très pratiquement j'essaye que tout ça devienne spontané. Donc j'ai peut-être plusieurs musiques à vous faire écouter. Une musique où j'ai poussé très loin la notion de liberté. Je me suis beaucoup posé la question de si c'est des êtres, alors comment on peut les faire vivre ensemble très librement? Cette notion de liberté d'existence, des sons les uns par rapport aux autres, m'a beaucoup travaillé pendant 35 ans de travail. Ce qu'on va écouter là, qui s'appelle Chanson de geste, fait référence à des sons très hétérogènes. C'est probablement la musique la plus hétérogène qui soit, où j'ai utilisé des musiques d'Afrique, du Brésil, des sons du monde animal, en essayant de respecter chacun des écoulements, chacun des mouvements, et d'essayer de les mettre en rapport. Et c'était un pari un peu difficile parce que de tout ça aurait pu naître une espèce de mélange sans signification en particulier. Donc j'ai essayé de voir ce qu'ils avaient de commun, ce que chacune de culture pouvait porter de signification commune, en particulier dans le mouvement. Donc j'ai appelé ça chanson de geste. Chanson parce que c'est une série de pièces très très courtes comme des chansons, et de gestes au sens large, c'est un jeu de mots. Et puis je vous dirais comment dans d'autres musiques, cette notion de liberté a continué de me questionner. On peut continuer par là si vous voulez.
C'est parti.
Est-ce que j'en ai pas un qui est déjà ouvert? Oui, il est tout neuf en plus. Est-ce que je peux... Non, c'est pas ça. C'est la plage. Donc ça dure 10 minutes. On écoute en entier ou
Ouais, on a
ouais.
trouvé.
Donc je me suis intéressé. Il y a plusieurs questions que je me pose. Musique électroacoustique, c'est musique pour ce qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous musiciens et que je me suis beaucoup interrogé sur ce qui est commun à tous les musiciens. Et électroacoustique, parce que je m'intéresse à ce qu'il y a de singulier cette fois-ci, de spécificité. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une expression en studio propre à la musique électroacoustique qui ne serait pas, comme on dit, pianistique ou flûtistique, etc. Est-ce qu'il y a une expression particulière qui est due à notre art en particulier? Et donc je m'interroge sur les deux, c'est-à-dire de faire la musique au sens très commun et très large, et à la fois d'utiliser l'expression. Pour ce qui est là, c'est une des premières musiques où la musique électroacoustique dans la fin des années 60, ça date de 75, 76, a utilisé la polyphonie. Jusqu'à présent, on utilisait beaucoup du montage avec des sons consécutifs parce que les moyens avec la bande magnétique. Et c'est une période un petit peu d'apogée de la polyphonie où on mettait plusieurs sons en même temps. Et j'ai beaucoup utilisé dans cette musique le fait de passer le mouvement et le sens particulier d'un son à un autre grâce au fait que je pouvais les mettre ensemble. Voilà, j'ai beaucoup causé. Voilà. Donc, chanson de geste.
Alors, moi, je vais juste faire
Oui.
une petite parenthèse, c'est que bon, je donnais les références parce qu'on ne sera probablement pas conservé sur les archives
Ah oui,
pour des
des
questions de
problèmes de
droit.
droit dont on va parler.
Donc, c'est publié par l'IMEB. Enfin, tu pourras
Oui.
me dire après.
Ben, ça a été fait à Bourges, ici, du temps où moi-même j'étais membre du groupe de musique expérimentale de Bourges, qui est devenu l'IMAB. Et puis le fait que ce soit édité est un des problèmes avec la diffusion en ligne, dont on va parler tout à l'heure, les
Ouais,
problèmes de droit,
problème
je
de droit.
crois, puisqu'on m'a demandé.
Et si vous voulez, on peut se mettre.
Oui.
Ouais, si vous...
Je vais t'installer?
C'est la deux. Oui. Je vais régler le volume, peut-être. Vas-y,
Ah,
tu peux faire
d'accord.
démarrer.